Bonjour Bernard.
Bonjour, Joseph.
À l'ère de la société post-industrielle, nous sommes aujourd'hui confrontés à un retournement radical de notre socialité. Derrière la prétendue libération de nos individualités et ce rêve d'ouvrir à la possibilité pour l'être humain de jouir pleinement de son autonomie en disposant du temps libre pour le faire, cette promesse qui agissait au cœur de la post-industrialisation, nous constatons au contraire que nous sommes, et très certainement suite au laisser-faire d'un néolibéralisme aussi puissant que mondialisé, de plus en plus homogénéisé, standardisé. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de vivre cette homogénéisation de nos individualités en confinement et face au déferlement d'une épidémie qui nous prive encore plus de tout un pan d'espace, je pense évidemment et prioritairement aux lieux de culture, musées, bibliothèques, galeries, concerts, cinémas, universités aussi. Ces lieux qui ont comme vocation première d'amplifier l'individualité au contact d'autres individualités. Donc ma question, Bernard, tout d'abord, peut-on établir un rapport, et si oui lequel, entre la société post-industrielle, le néolibéralisme et la crise sanitaire actuelle? Et puis en second lieu, quels sont les effets de ce rapport sur la possibilité même d'exprimer nos individualités et par conséquent un vivre ensemble riche d'apports individuels, créatifs, inventifs, imaginatifs pour l'avenir.
Alors, d'abord, moi, je dirais que cette société post-industrielle est en réalité hyper-industrielle, qui s'est passée depuis ces 50 ans. C'est une industrialisation d'absolument tous les rapports sociaux, y compris des rapports à soi-même. Par exemple, le countrified self, c'est une industrialisation de mon rapport à moi-même. Pourquoi une industrialisation? Parce que c'est médié par des algorithmes qui ne m'appartiennent pas, que je ne connais pas, dont je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais qui exploitent par contre les données que je produis pour faire de moi une marionnette digitale. Alors, quel est le rapport entre cela et la crise sanitaire contemporaine, qui est plus qu'une crise, qui est, comme le disent beaucoup de gens en ce moment, mais à juste raison, je reprends cet argument à mon compte, c'est un avertissement ultime. Je dois dire que depuis 2 ans, j'ai travaillé avec tout un groupe, une soixantaine de chercheurs du monde entier, 15 nationalités, toutes disciplines pratiquement, personnalités un peu phares, Alain Supiot comme juriste, Giuseppe Longo comme mathématicien, Anna Sotto comme biologiste, Carlo Sonnenschein comme médecin, etc. Nous avons travaillé avec toutes sortes de gens, urbanistes, architectes, etc. Essayer de montrer qu'on ne pouvait pas continuer dans cette société hyper-industrielle telle qu'elle fonctionne. Je dis bien telle qu'elle fonctionne parce que moi je ne suis pas contre l'industrie du tout, non seulement je ne suis pas contre, mais je pense que à partir du moment où 9 milliards de terriens sont appelés à vivre sur Terre, il faut des solutions industrielles. On ne peut pas l'éviter. C'est pure irresponsabilité de prétendre le contraire. En revanche, il faut changer fondamentalement le modèle industriel. Le modèle industriel actuel est basé sur la physique de Newton. Le modèle industriel actuel, c'est le développement de l'esprit des Lumières, qui s'est transformé via Condorcet et quelques autres au XIXe siècle en société industrielle, révolution du grand capitalisme industriel. Ça a été la religion du progrès, comme on a dit parfois. Mais ce développement s'est fait sur des bases scientifiques qui ne sont pas fausses, mais qui sont limitées, qui sont le principe d'inertie et la gravitation universelle de Newton, qui était l'horizon d'Emmanuel Kant. Et l'inertie de Berlin a été transformée par Humboldt à partir du conflit des facultés de Kant. Et toute la grande compétition entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France du 19e siècle a été basée sur le développement d'une nouvelle rationalité, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, comme l'a montré Adorno avec Horkheimer, cette rationalité est en fait une rationalisation irrationnelle, pas du tout rationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle ignore fondamentalement la grande nouveauté scientifique du 19e siècle, qui est la loi de l'entropie, le second principe de la thermodynamique, et les questions que cela pose au 20e siècle, d'une part avec Erwin Schrödinger, le physicien quantique, d'autre part avec Norbert Wiener, qui essaye de penser la cybernétique, et enfin avec un chercheur extrêmement important, mais pratiquement inconnu encore à ce jour, sauf par quelques spécialistes, qui s'appelle Alfred Lotka, qui est un mathématicien devenu spécialiste de la génétique des populations et utilisant les modèles de l'entropie thermodynamique pour étudier le vivant, et qui a finalement élaboré tout au long de sa vie, et en faisant une synthèse à la toute fin de sa vie, en 1945, une théorie de ce qu'il appelle l'exosomatisation, où il montre que l'être vivant humain est un être vivant, comme tous les êtres vivants, il doit lutter contre l'entropie, puisque l'entropie c'est la mort, mais que chez l'être humain, cette lutte contre l'entropie s'opère avec des organes artificiels, il appelle exosomatiques, et que ces organes, eh bien, ils sont duplices, c'est-à-dire qu'ils peuvent autant augmenter l'entropie que la négentropie. Nous disons donc avec ce groupe qu'aujourd'hui, il faut absolument tirer les leçons de cette catastrophe, qui n'est qu'un début, qui en plus va se combiner avec d'autres catastrophes dans d'autres champs de la réalité humaine, financiers, environnementaux, etc., politiques, car on a tout à craindre une explosion du ressentiment, de l'agressivité, nationalisme, etc., etc. Et donc il est fondamental pour lutter contre cela d'ouvrir une nouvelle perspective qui revendique un nouvel âge de la raison. La raison, c'est via Spinoza qu'il faut la penser comme le désir. La raison, c'est la raison d'agir, c'est le désir. Et le désir, c'est ce qui est produit par ce que j'appelle la néganthropologie, c'est-à-dire la capacité à projeter, une capacité de bifurcation, comme de vivant, mais en passant par l'artificiel, par exemple par l'objet transitionnel de Donald Winnicott, par exemple par les œuvres d'art dont il dit que ce sont en fait des objets transitionnels pour adultes, ou des œuvres scientifiques, etc. Ça, c'est une nouvelle conception de la raison. Nous pensons que cette nouvelle conception de la raison peut devenir la base d'un nouveau modèle industriel, car ce qui s'est produit avec l'économie industrielle du capitalisme qui émerge au XIXe siècle, c'est la prolétarisation généralisée, qui consiste à détruire les savoirs d'abord des ouvriers qui deviennent des prolétaires, et aujourd'hui même des managers qui ne savent plus comment fonctionne leur système, c'est eux-mêmes qui le disent. J'avais montré dans un de mes livres que Alan Greenspan s'était défendu en disant que vous ne pouvez pas m'accuser car je ne sais pas comment ça marche et personne ne le fait et tout le monde en est au même point. Donc, en fait, il décrivait ce que Marx disait en 1848 parce qu'il disait ça finira par atteindre y compris les dirigeants des entreprises. Aujourd'hui, c'est le cas. Macron est parfois pathétique, mais il est pathétique parce qu'il est prolétarisé comme tout le monde. Ce qui est gravissime, c'est qu'il le dénie, qu'il s'en aperçoit même pas. Au moins, Greenspan s'en aperçoit. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de lancer un programme que nous appelons de déprolétarisation. Le premier chapitre de ce livre a pour titre « Décarbonation et déprolétarisation ». Si nous voulons décarboner, par exemple, l'atmosphère et la vie sur Terre, il faut revaloriser les savoirs des individus et cesser de passer par des systèmes algorithmiques qui les court-circuitent et qui ont une tendance structurelle à l'entropie. Ça a été démontré par Ludwig von Bertalanffy en 1968. L'automatisation calculatoire des systèmes humains conduit à ce que Bertalanffy décrit comme des systèmes fermés, c'est-à-dire une augmentation des taux d'entropie. Wiener dit la même chose en cybernétique. Maintenant, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas utiliser d'algorithmes ou d'automates, je veux dire qu'il faut les utiliser pour les mettre au service d'une délibération néganthropique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il est très tard pour faire quelque chose, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit, malheureusement. Il y a très 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 peu de temps, mais il faut essayer. Il faut essayer et moi je soutiens toujours que c'est ce que montrait René Thom, le mathématicien, quand une catastrophe dans son sens à lui, c'est-à-dire une bifurcation, se produit, c'est parce qu'il n'y a plus aucune chance pour qu'elle arrive. Et c'est précisément parce qu'elle est imprévisible que voilà, elle se produit. Il y a eu une telle accumulation de ce que, par exemple, Gilbert Simonon a appelé une saturation, une sursaturation, un milieu sursaturé, qui fait qu'il n'y a plus aucune issue possible, et ben, d'un seul coup, le système bifurque. Voilà. Et ce qu'il faut que nous essayons de faire, ce n'est pas du tout évident, bien entendu, ce n'est pas du tout gagné, mais il faut essayer, donc je me consacre à ça.
Par rapport à la crise sanitaire que nous vivons, par rapport à l'épidémie que nous vivons, est-ce que cette épidémie est-elle un signe, voire un signe de plus, d'une homogénéisation néolibérale, ou bien porte-t-elle autre chose, et si oui, quoi, quelque chose de l'ordre d'une certaine suspension, interruption, appel à une nouvelle raison, voire rupture avec cette homogénéisation, et donc une prise en compte d'une nécessité de l'individuation, pour reprendre un concept qui t'est cher.
Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que nous dit le vivant? Puisque c'est le vivant. Alors, je sais qu'on dit souvent que les virus ne sont pas vivants, c'est très discuté, mais peu importe. En tout cas, ils appartiennent. Ils prolifèrent avec le vivant, dans le vivant. Qu'est-ce que nous dit le vivant? Bien, ils nous disent ce que Schrödinger disait déjà en 44, c'est-à-dire que l'anégantropie est toujours locale. C'est-à-dire qu'un organisme, par exemple, ne peut se négantropiser. Moi-même, je maintiens ma température entre 36 et 42 degrés. En dessous, je meurs par hypothermie. Au-dessus, je meurs par un accès de fièvre. Dans cette fenêtre-là, j'ai un système isothermique qui fait que, voilà, homéostatique, qui fait que je me maintiens dans cette fenêtre. Et je me maintiens, pourquoi? Parce que j'accumule de l'énergie en mangeant trois fois par jour, etc., etc. Mais c'est local, c'est-à-dire que c'est inscrit à l'intérieur de mon corps. Mon corps est lui-même inscrit dans ce qu'on appelle parfois une niche, qui elle-même appartient à un écosystème. Cette niche et cet écosystème sont ceux de l'espèce humaine, qui autrefois était tout petit. Moi, j'ai fait beaucoup de préhistoire et j'ai beaucoup étudié avec l'équipe de Leroy Gourhan au début de mes travaux. Bon, il faut jamais oublier que l'homme apparaît il y a pas très longtemps, en fait, il y a 3-4 millions d'années, et il est très localement situé au sud de l'Afrique, voilà, dans la vallée de l'Olduvai, plus ou moins. Voilà, il va se répandre petit à petit. Il faut jamais oublier que l'homme apparaît en Amérique du Nord et du Sud il n'y a que 40 000 ans. Et que c'est une migration qui s'est faite tout à coup, à partir du moment où est apparu Homo sapiens sapiens, qui est subitement doté de nouveaux organes exosomatiques, pas simplement les arcs, l'arc apparaît à ce moment-là, pas simplement des instruments de musique aussi qui apparaissent à ce moment-là, mais également les grottes ornées, tout un dispositif de constitution d'une mémoire collective qui va donner une puissance à cette nouvelle espèce qui est très bizarre puisqu'elle est exosomatique, elle est débile sur le plan endosomatique, l'homme endosomatiquement n'est pas viable. Il n'est viable qu'à la condition de s'augmenter. Rousseau l'avait déjà compris, hein. Et Herder aussi, à la même époque. Mais tout à coup, il y a environ, paléolithique supérieur, disons, entre 70 000 et 40 000 ans avant nous, il y a un saut qui s'opère, qui fait que, par exemple, tout à coup, l'homme se déplace à 350 km/h parce que sa flèche, à 350 km/h, donc il peut attraper une gazelle ou un guépard qui court à 100 km/h, il devient un prédateur absolument redoutable. En plus, il a des capacités de coopération, donc il sait se synchroniser, il parle, et donc il est capable d'attaquer avec une centaine de chasseurs, de tuer un mammouth, qui est un énorme animal, extrêmement puissant. Et cependant, ce microscopique animal le maîtrise, et finalement va l'exterminer d'ailleurs. Alors, ça, c'est le début d'un processus que j'appelle la transformation de la biosphère en une technosphère. Cette technosphère qui a été en fait imaginée pour la première fois par Vladimir Vernadsky, qui est un savant soviétique extrêmement important, tout aussi important que Lotkad, que d'ailleurs il connaissait, mais tout aussi ignoré ou presque, enfin un peu moins ignoré que Lotkad, extrêmement important. Il décrit cette transformation de la biosphère en technosphère. Et il pose les problèmes qui sont ceux d'une fragilisation des conditions du vivant, qui sont tels que le vivant, il y a un retour du vivant, comme on parlerait de retour du refoulé, tout à coup, parce que aussi artificiels que nous puissions être, nous sommes néanmoins encore des êtres vivants. Et en tant qu'êtres vivants, nous sommes soumis, pas intégralement, aux lois de la biologie, mais quand même fondamentalement soumis. J'ai pris l'exemple tout récemment de Stephen Hawking, sur lequel j'ai un peu travaillé, parce que Stephen Hawking était considéré comme le plus grand physicien de son temps, ce qui n'est pas du tout mon avis d'ailleurs, mais en tout cas, c'était un très grand physicien, ça c'est certain. Il faut savoir que Cambridge entretenait 50 personnes pour s'occuper de lui en permanence, et il dirigeait une espèce d'orchestre composé d'ingénieurs, de toutes sortes de gens, avec des instruments qui étaient le système Siri, qui a été inventé pour lui, le système de synthèse vocale, et en fait, il n'a plus rien de fonctionnel dans son corps. Et donc, il était presque intégralement artificiel. Mais pas totalement. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et s'il est mort, c'est parce qu'il restait un être vivant. Donc, il restait dépendant quand même des contraintes du vivant. Aujourd'hui, le vivant se rappelle à nous. Il se rappelle à nous via ce virus, avec évidemment, alors là, il aurait fallu parler, mais on n'en a pas le temps, étudier très en détail l'évolution de la virologie depuis un siècle, parce qu'il faut regarder de très très près ce qui se passe chez les virus. C'est tout à fait important, il y a des choses très très nouvelles qui sont fondamentalement liées au vecteur de transmission technologique, à la vitesse de transmission technologique, et par rapport à cela, il est aujourd'hui, ce que nous dit le vivant à travers cette infection, c'est que si nous ne rétablissons pas un rapport à la localité, nous sommes fichus. Alors, c'est dangereux de dire ça, bien entendu, parce que rapport à la localité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire Marine Le Pen va dire « Ah, j'avais raison !» Non, pas du tout. Pourquoi? Le rapport à la localité, nous parlons ici, c'est le rapport à la localité ouverte dont parle Henri Bergson, par exemple, dans Les deux sources de la morale de la religion, dont parle Rainer Maria Rilke dans les élégies, pas dans les sonnets à Orphée. Il faut que nous inventions une nouvelle localité. Nous publions un livre qui va paraître début juin, je crois, 2020, qui s'appelle Bifurqué, le titre fait Bifurqué. Nous soutenons qu'il faut relire un texte de Marcel Mauss de 1920, que la biosphère, c'est une localité dans le système solaire. Pourquoi est-ce que c'est une localité? C'est au sens scientifique du terme. Il s'y produit des choses qui ne se produisent pas dans le reste de l'univers. La biosphère ne fonctionne pas, comme le système solaire, par exemple, ou les autres planètes et étoiles du monde. Pourquoi? Bien parce que dedans est apparue une logique, qui est la logique du vivant. Et je l'emploie pas au sens de François Jacob, parce que je suis assez critique sur François Jacob, mais cette logique du vivant, c'est celle de Vernadsky. Par exemple, Vernadsky dit « il y a énormément de molécules sur Terre qu'on regarde en physicien, alors on a tort parce qu'en fait elles sont produites par les êtres vivants, ce sont des biomolécules. » Par exemple, le calcaire, c'est produit par le vivant, ce sont des os, des squelettes, des coquillages, etc. Évidemment, toutes les maisons de Paris ont été faites en calcaire, en tout cas à une certaine époque, plus maintenant. Donc on se disait « c'est de la pierre, donc c'est un objet de la physique », pas du tout, c'est un objet de la biologie. Et donc, il faut repenser tout cela, fondamentalement. C'est ça que nous dit le vivant aujourd'hui. Il faut rendre compatible l'exosomatisation avec notre condition d'être qui reste malgré tout endosomatique. Il faut que notre cerveau et notre cœur continuent à fonctionner quand même un minimum. Et un virus absolument nanométrique peut tout à coup détruire tout ça. Et donc nous découvrons notre hyper-vulnérabilité. Et en plus, ça n'est rien parce que la vulnérabilité créée par ce virus, on ne l'a pas encore vue. On va la voir dans les effets sur l'économie qui risquent malheureusement d'être extraordinairement dommageables. Et donc, il est très important aujourd'hui, dans ce contexte-là, de repenser la situation totalement et d'une manière véritablement à la fois patiente, mais extrêmement efficace dans le temps, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça veut donc dire qu'il faut travailler avec de très hautes exigences conceptuelles et en même temps en faisant un transfert, je dirais, de savoir ultra rapide vers la société.
Une dernière question, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé dans des instituts culturels français très importants, parmi les plus importants. Beaucoup sont aujourd'hui alarmés devant les effets de cette crise sanitaire et du confinement notamment dans les domaines de la culture ainsi que de l'enseignement supérieur. Il est indéniable qu'il y aura des effets dévastateurs sur ces domaines comme sur l'économie. Mais ma question, comment penses-tu que nous pouvons enrayer ces effets, difficilement prévisibles d'ailleurs, sur l'espace culturel, sur la recherche fondamentale, sur l'enseignement supérieur? Quelles seraient ou pourraient être les politiques qui pourraient rendre possible un autre horizon culturel et intellectuel que celui que nous vivons, d'après toi, de manière accélérée depuis 68.
Quand je suis arrivé au Centre Pompidou, j'ai posé qu'il fallait repenser complètement la fonction des institutions culturelles, qu'il fallait arrêter de mener ce que j'ai appelé la politique consumériste des institutions culturelles. Quand je suis arrivé au Centre Pompidou en 2006, Médiamétrie était en charge d'évaluer l'audience du Centre Pompidou, ce qui m'avait absolument choqué. Je connaissais très bien Médiamétrie parce que j'avais dirigé l'INA 10 ans plus tôt. Et Médiamétrie, c'est ce qui calcule l'audience des télévisions, du temps de cerveau disponible de Patrick Lelay, qui est mort récemment. Paix à son âme, ce pauvre bougre. Voilà. Moi, j'ai à ce moment-là posé qu'il fallait complètement changer le rapport au public. Le public des musées ne sont pas des conservateurs. À cette époque-là aussi, le Musée du Louvre avait publié une étude qui montrait que les gens passaient 46 secondes en moyenne devant les œuvres. Aujourd'hui, c'est tombé à 17 secondes, je crois. J'ai eu un nouveau, c'est absolument catastrophique, c'est apocalyptique. Et en fait, il n'y a plus d'institutions culturelles. Il y a des institutions de tour opérateur, de tourisme, plus ou moins culturel, entre guillemets, voilà, qui détruisent totalement les conditions même de la pratique, par exemple, de l'œuvre muséale. L'autre aspect, l'enseignement, disons, l'université en particulier, qu'il faut absolument s'emparer des technologies numériques, non pas pour faire des digital humanities, c'est-à-dire comment j'utilise un algorithme pour étudier les statistiques, il faut le faire, ça, bien entendu, mais ça, je dirais que c'est trivial. C'est tout à fait, c'est très intéressant, mais c'est tout à fait trivial. Par contre, si on comprend qu'aujourd'hui, par exemple, un nanophysicien ne peut pas étudier la physique sans un ordinateur, que cet ordinateur, c'est le seul qui rend intuitif un phénomène qui n'est pas intuitable. Pourquoi ? Parce que ce phénomène, il est nanométrique, il est en dessous des échelles lumineuses, donc il n'est inaccessible à ce que Kant appelait l'intuition. Il n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. À partir de là, on ne peut accéder à l'objet physique, à l'objet scientifique, qu'à travers cette machine. Eh bien, cette machine n'est plus simplement une machine. Cette machine, elle est aussi importante que la table des catégories d'Aristote. Là, ça veut dire qu'il faut que le monde académique se bouge énormément pour s'emparer de toutes ces questions-là, au moment où, par ailleurs, on voit bien que se développe avec le confinement, les conférences Skype, Zoom ou autres, et toutes ces technologies d'enseignement à distance, où là, il y a quelque chose de très dangereux qui risque d'arriver, qui est ce que Naomi Klein avait décrit dans la stratégie du choc. Il risque d'arriver que les disrupteurs de la Silicon Valley disent « on s'empare de tout ça pour détruire les universités, détruire les écoles et remplacer tout ça par du service en ligne. » Voilà. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a de plus probable. Mais ça serait absolument catastrophique. Il faut au contraire mobiliser le monde académique, le monde enseignant, qu'il est extrêmement important d'inventer une nouvelle expérimentation. Là, je me rapproche un peu de ce que disait Félix Guattari. Félix Guattari, dans les années 70, avait créé le CERFI, qui était une association qui faisait travailler ensemble des chercheurs, des travailleurs sociaux, des habitants, etc. Et il faut être très proactif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'opposer, par exemple, à la programmation de la recherche. Moi, j'y suis farouchement opposé, mais ça suffit pas de s'opposer. Il faut proposer. Il faut dire non, on veut pas de votre truc, mais nous, on propose ça. Et il faut faire des propositions vraiment alternatives et dont l'évidence de l'intérêt s'impose à tous. Et si on fait ça, on trouvera des soutiens partout.
Dernière question, quel est ton antivirus philosophique ?
Souvent, c'est Socrate, tout simplement, et en particulier son discours sur le pharmacon, qui n'est pas exactement ce que disent souvent les Derridiens, parce que souvent les Derridiens, Derrida n'a jamais dit ça, mais souvent les Derridiens croient que Derrida a dit que Socrate aurait dit qu'il ne fallait pas utiliser l'écriture, qu'il ne fallait pas... Pas du tout, il suffit de l'enfèdre. Socrate ne dit pas du tout ça. Socrate dit qu'il faut contrôler l'écriture avec la dialectique et Derrida répond, mais ça c'est une illusion, parce que c'est une dimension hypomnésique qui conditionne l'apparition de la dialectique. Mais moi j'ajoute, ça c'est Platon qui le dit, c'est pas Socrate. Moi je pense que Socrate c'était un tragique, et que en tant que tragique, c'était les grands tragiques, ce sont des penseurs du pharmacon. C'est du caractère ambigu, irréductiblement ambigu de la condition des anthropoïdes, des thanatoïdes. Voilà, c'est ce qu'a rappelé Jean-Pierre Vernant dans...
On pourrait ajouter Hölderlin, alors.
Bien entendu, Hölderlin, et bien entendu Nietzsche sous certains aspects, mais j'ajouterais aussi Robert Wyatt, Charlie Parker, qui sont pour moi des figures philosophiques parfois. C'est-à-dire ceux qui ont réussi à transformer Robert Wyatt, que moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas du tout passionné par la pop music, ça ne m'intéressait pas tellement, même si le groupe de Robert Wyatt avait joué avec Dudu Pukwana, avec des gens, avec des jazzman comme ça, donc j'avais une certaine attention pour lui. Mais à partir du moment où il a pris un LSD, il s'est jeté par la fenêtre du quatrième étage et finalement il s'est retrouvé à jamais paralysé, puisqu'il vivait en chaise roulante, voilà. Eh bien, il est devenu un musicien fabuleux. Ça, c'est la question du pharmacon. Et c'est la question de ce que j'appelle la quasi-causalité que je reprends à Gilles Deleuze, mais en la modifiant un tout petit peu.
Merci beaucoup, Bernard.
Avec plaisir.